Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leurs méthodes et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute! Nous voilà dans l'épisode. Juste un petit mot avant de commencer avec Jean-Philippe. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Concept Store Merci, dans lequel Jean-Philippe Delhomme signera son livre « Peindre devant soi » ce jeudi 14 décembre 2023 de 18h à 20h. Venez nombreux, je pense que j'y serai aussi. Autre petit disclaimer, j'ai eu un petit problème technique sur cet épisode. J'ai dû enregistrer ma voix avec mon téléphone parce que j'ai eu un problème de micro. C'est la première fois que ça m'arrive en 400 épisodes d'Entreprendre dans la mode et de The Bold Way. J'ai essayé de rattraper ça. Je pense pas que ça gêne trop l'écoute. Néanmoins, je vous prie de m'excuser. Allez, place à l'épisode. Salut.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Jean-Philippe Delhomme. Bonsoir, Jean-Philippe.
Bonsoir, Adrien.
Pour commencer, pour mettre un peu de contexte, où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on se trouve?
Alors là, nous sommes dans mon atelier, dans le 14e arrondissement,
ouais.
À Paris.
Très bien. Tu peux nous le décrire un petit peu?
C'est une grande pièce avec une... Il y a une verrière assez haute, très haute même. Et il y a une qui permet d'avoir une jolie lumière diffuse. Là, il fait nuit, bon, mais voilà. Et puis il y a mes peintures autour. Il y a au mur des fonds de couleur. On en parlait tout à l'heure. C'est des fonds que j'utilise pour varier l'ambiance et créer des fonds différents pour les quand je fais poser des gens ou quand je peins des natures mortes.
Très bien, parfait. Ça fait combien de temps que tu es là, toi?
Ça va faire 3 ans que je suis dans cet atelier.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait un bon atelier?
C'est la lumière, l'espace. C'est la lumière surtout. Enfin, c'est vrai que c'est important. Il faut qu'il y ait une ambiance, quoi. Une ambiance propice à. Il faut qu'il y ait du silence aussi. Moi, j'aime bien qu'il y ait du silence autour, que ce soit pas trop bruyant. Et après, c'est une boîte dans laquelle on doit pouvoir se concentrer et faire entrer des choses aussi. Il faut pouvoir faire entrer des. Parce que c'est une boîte où il n'y a rien, donc c'est comme un théâtre, il faut, comme une scène, il faut apporter des choses. Quoi. Bah, moi, je fais poser des gens, je trouve des objets, ou parfois je peins simplement la lumière qui rentre par les verrières dans l'atelier.
Très bien, on va y revenir sur tout ça. J'aime bien poser une question aussi, c'est comment tu te présentes au monde? Qu'est-ce que tu dis aux gens contre ce monde? Qui es-tu? Ce que tu fais dans la vie?
Ça a toujours été compliqué, parce que, en fait, quand on fait des... Quand on fait des images, il faut que les gens se rendent compte, il faut que les gens puissent voir, quoi. Donc, moi, aujourd'hui, je dis que je fais de la peinture. Je précise que je suis artiste parce que un type à qui je disais ça voulait me proposer de repeindre son appartement. Donc, je lui ai dit non, je suis plutôt l'artiste. Mais je n'aime pas dire artiste, je trouve ça un peu con, je préfère dire que je fais de la peinture. Et j'écris aussi.
Oui, bien sûr. Très bien. Ce que je te disais tout à l'heure en préambule, j'aimerais bien revenir sur toute l'épopée, sur toute l'histoire de Jean-Philippe Delhomme, comprendre où est-ce qu'il est né, où est-ce qu'il a grandi et comment il est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui, cet artiste, en tout cas ce peintre. T'es né où? T'as grandi où? Et qu'est-ce qui t'a amené à un jour mettre un pinceau sur une toile?
Alors, je suis né dans la banlieue parisienne, à Nanterre. Après, mes parents habitaient à Courbevoie. Ensuite, à Sarcelles. Qui était une cité toute neuve à l'époque. C'était autour de l'époque de mai 68. Enfin, voilà, bon. Et après, mon père, qui était chirurgien, s'est installé en province, à Cherbourg, en Normandie. Et voilà, j'ai habité à Cherbourg de l'âge de 12 ans à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, je suis revenu à Paris pour faire des études de dessin.
Très bien. Tu te rappelles de la première relation que tu as eue avec une image, avec une peinture, avec le dessin?
Ah bah, tout de suite, hein, très très tôt, quand j'étais enfant, je raconte ça dans mon livre « Peindre devant soi ». En fait, j'ai toujours eu conscience de dessiner. J'ai toujours eu cette conscience de... Ça paraît prétentieux d'avoir un talent particulier, mais j'ai toujours été à l'aise avec ça. Et les adultes autour de moi trouvaient que je dessinais bien. Enfin, d'aussi loin que je puisse revenir en arrière, enfin, d'aussi loin que j'ai une mémoire des choses, je me souviens dessinant. Je me souviens de moi dessinant. Et voilà. Et puis, je sais pas, même à l'école primaire, à 6 ans, je me rappelle que je pouvais impressionner l'institutrice en dessinant, par exemple, une deux chevaux. Je me rappelle, j'avais fait un dessin, c'était un pique-nique avec des gens dans une deux chevaux. J'avais 6 ans, tout le monde reconnaissait, enfin, je savais qu'on reconnaissait une deux chevaux, tout ça. C'était des détails comme ça, voilà. Et voilà. Donc, ça m'a jamais quitté. Souvent, tous les enfants dessinent, et puis souvent, ça s'arrête, les gens passent à autre chose, enfin, oublient, voilà. Mais moi, non, de l'enfance à aujourd'hui, j'ai jamais arrêté de dessiner, ou arrêté de penser que je dessine ou que je peins, enfin, voilà.
Tu as toujours. Ouais, en fait, tu savais depuis le début que tu serais artiste?
Je savais pas vraiment, j'avais aucune idée de comment. Non, quand j'étais enfant, je pensais que. Je voulais devenir chirurgien comme mon père ou architecte comme le père d'un copain que j'avais à l'école. Je faisais peut-être faire les deux. Hein.
Parce que ton père faisait les deux, non? Il était mon père peintre
était,
du dimanche.
Il était chirurgien, et il peignait beaucoup, je l'ai toujours vu peindre. Ouais. Enfin, il peignait moins évidemment quand il était chirurgien, mais quand on partait en vacances l'été ou le week-end, il faisait des peintures. Donc j'ai toujours vu faire ça, mais je me souviens plus quelle était ta question. Mais...
Non, mais t'as toujours voulu être artiste. Enfin, tu le savais
oui,
pas forcément,
alors, oui,
etc.
Je savais
mais
pas, oui, je savais pas. Après, quand j'étais au lycée, je faisais des bandes dessinées. Enfin, je regardais je regardais le travail des artistes ou des livres de peinture. Et puis, comme j'étais de plus en plus décalé par rapport à l'école. C'était de plus en plus clair que je n'allais pas faire médecine. J'y tenais plus spécialement d'ailleurs, mais en tout cas, j'étais très loin d'être en mesure de pouvoir faire médecine.
Pourquoi tu bossais pas trop?
Bah, plus, c'était plus
pas
allait,
trop adapté.
J'étais cancre au lycée. Enfin,
okay.
J'ai quand même eu mon bac, etc. Mais j'étais. Oui, je foutais rien, et puis je révisais les dernières semaines, quoi. Mais non, la littérature, ça m'a toujours intéressé. Par exemple, c'est vraiment le seul truc qui m'intéressait au lycée. Et sinon, bon, c'était les années 70. Donc, non, j'avais envie d'être hippie ou je sais pas, enfin, de vivre dans une communauté ou je ne sais rien, enfin, ou d'aller faire la route jusqu'en Inde.
C'était tes rêves à l'époque?
Je ne voyais pas tout ce que j'allais faire comme métier sérieux. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est dessiné, c'est le cas de le dire, mais quand j'ai passé mon bac, après, je ne sais pas, c'est devenu une espèce d'évidence de faire des études de dessin. Je ne savais pas en quoi ça consistait vraiment. Ma mère m'a inscrit dans une école préparatoire, là, qui était Charpentier à l'époque. Et puis, j'ai débarqué dans cette école préparatoire au concours des écoles, en n'ayant aucune idée de comment ça allait se passer. Et c'était pas évident, c'était pas marrant. Moi, je pensais dessiner d'une certaine manière, mais comme tous les gens qui arrivent dans des prépas, tous les gens qui dessinent, les premiers mois, ils sont complètement défrisés par le système, parce que ils se rendent compte que c'est pas du tout ça qu'on leur demande, etc. Enfin voilà, donc là, ça c'était une des premières années comme ça. Où je voyais très mal comment j'allais pouvoir remonter la filière pour avoir pour en vivre, pour avoir une place dans la société, à Paris. Enfin, je voyais pas trop comment je pouvais faire.
Ouais, surtout que t'avais pas d'exemple vraiment direct.
Je savais pas ce qu'on pouvait faire.
Tu savais que t'avais un don, mais tu savais pas ce que t'allais en faire.
Non, alors, et en plus, la première année, je savais pas quoi faire en plus comme dessin. Quoi, il y avait quand il y avait des devoirs, enfin des sortes de compositions, on demande, je sais pas, ça s'appelait créativité. Enfin, il fallait faire un, il y avait un sujet, puis il fallait faire quelque chose en couleur, quoi. Alors là, vraiment, je voyais pas du tout quoi faire, et je pensais qu'il y avait une règle pour les couleurs aussi. Je me disais, les autres doivent savoir qu'il y a des règles précises pour les couleurs. Moi, j'ai aucune idée. Donc, très souvent, je savais pas quoi faire. J'avais énormément de mal. C'était assez décourageant. Il y avait des gens aussi qui faisaient, beaucoup de gens faisaient encore des trucs abstraits à l'époque. Enfin, ça paraît bizarre, mais il y avait des, je sais pas, des gens qui faisaient des compositions. Alors là, moi, j'étais incapable de faire ça. J'avais vraiment aucune idée pour ça. Ou d'autres qui faisaient des trucs, des, genre d'heroic fantasy, là aussi, c'est pareil. Bon, voilà. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver quelque chose que je pouvais faire et qui me paraisse être qui me fasse plaisir, cohérent avec moi-même, qui me fasse plaisir. Faut que je me dise, bah, bon, là, je fais un truc qui me ressemble. Mmh. Oui,
Très bien. Et donc là, c'est charpentier. Les charpentiers, c'est ça, comment t'appelles ça ?
Charpentier, ça a, ça a duré 2 ans. Après, j'ai raté tous les concours. J'ai repassé une deuxième fois les arts déco, raté une deuxième fois, puis troisième fois je l'ai eu quand même. Mais c'était...
Pourquoi tu t'obstinais ?
Je pensais que les arts déco à l'époque c'était bien. Je me voyais pas aller dans une école d'artistes, enfin ça existait pas vraiment. Il y avait les beaux-arts, mais les beaux-arts à ce moment-là c'était tout début 80, enfin fin 70, ça avait pas une réputation formidable, enfin. Ça paraissait, je sais pas, un peu passéiste à ce moment-là, enfin, comme ça que je l'imaginais, hein. Et, non, les arts déco, ça me paraissait bien. Et, mais voilà, je me suis repris à 3 fois pour y aller.
Très bien. Et là, c'est la délivrance. T'es content, t'es heureux chez, aux arts déco?
En fait, j'étais encore à Penningen, parce qu'il y a une école de pub, enfin de pub, de graphisme, enfin que j'ai fait un an de plus. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, ah non, mais c'est beaucoup mieux de rester à Penningen, c'est beaucoup mieux que les arts déco. Enfin, donc du coup, je suis resté un an de plus, et, parce que je pouvais repousser mon inscription d'un an. Et puis l'année d'après, je me suis dit, c'est quand même con de pas y aller, donc j'allais au cours du soir aux arts déco. Un petit groupe de gens sous la lumière électrique entre, je sais plus, 7 et 9 heures du soir. Et puis je me suis dit, c'est ça que je devrais faire, c'est mieux en fait. Enfin, je préfère ça. Et finalement, je suis resté aux arts déco.
D'accord, très bien. Une fois que tu finis ces études, là, tes premières rencontres avec le monde professionnel. et d'ailleurs, tu t'aspires à quoi à ce moment-là? Parce que t'as appris quoi? Tu retiens quoi de Penningen, des arts déco?
En fait, quand j'étais à Penningen, la dernière année où j'y étais, juste avant d'aller aux arts déco, j'étais en un truc qui s'appelait AG1. Je ne sais plus si c'était AG1 ou AG2. Je ne crois pas que j'ai fait AG2, je crois que je me suis fait virer en AG2. Non, c'est AG1, c'était cette école de graphisme. J'ai commencé à travailler, en fait. J'ai commencé à travailler, il y avait une fille dans l'atelier, c'était même l'année d'avant, une fille dans l'atelier dont le père était directeur artistique de Rock'n'Folk. Et elle voyait mes dessins, je faisais des petits dessins noirs et blancs à l'époque. Elle me dit, ah, tu devrais aller voir mon père. Et je ne croyais pas, je trouvais ça merveilleux. Je me dis, ah, ça c'est une chance inouïe d'aller à Rock'n'Folk. Parce que Rock'n'Folk, à l'époque, moi j'écoutais beaucoup de musique, ça me paraissait incroyable. Quoi. C'est comme si on m'avait dit, tu vas aller à, je sais pas, à Interview Magazine d'Andy Warhol ou quelque chose comme ça. Donc je vais à Rock'n'Folk voir son père, qui s'appelait Philippe Quéclin. C'est un type très très sympa, qui m'a dit, bah oui, on peut passer tes dessins de temps en temps. Donc il passait mes dessins, voilà, petits dessins noir et blanc. J'étais très très content de ça, très fier. J'avais l'impression que c'était...
C'était le sommet, ouais.
Ah oui, j'ai l'impression que c'était vraiment... J'étais très très fier. Donc voilà, c'est les premiers trucs que j'ai fait. Et après, j'ai rencontré quelqu'un à un dîner... Un mec qui était assis à côté de moi, je lui demande ce qu'il fait, il me dit qu'il est illustrateur. Je m'ai entendu parler de ça. Je lui dis, mais ça consiste en quoi? Il me dit, bah, tu fais des dessins pour les magazines. Je lui dis, ah bon, mais...
C'est un métier?
Comment tu fais? Tu vas voir les gens, tu leur téléphones, tu vas leur montrer ton dossier, ils te donnent du travail, et tu fais des illustrations. Et ça me plaisait beaucoup. J'ai toujours, d'avoir des dessins publiés, que des dessins soient diffusés, voyages, que les gens puissent les voir, que des gens qu'on connaît pas puissent voir ce qu'on fait. Moi, ça me plaisait beaucoup. Et le magazine en tant que tel, enfin, le magazine comme médium, les journaux, les magazines, ça aussi, ça, je trouvais que c'était un médium formidable. C'était un peu comme, je sais pas, pour moi, comme pour un musicien, d'avoir des chansons qui passent sur une radio, ou une radio internet, enfin sur une radio, quoi. Et donc voilà, ça m'a énormément motivé. Et à partir de là, j'ai commencé à aller voir beaucoup de gens dans les tous les magazines que je pouvais aller voir.
Quel plaisir, ouais.
Tous les magazines, tous les journaux. Et puis parfois, il y avait des magazines qui n'étaient pas forcément passionnants, ou des magazines féminins, par exemple, pas passionné par les magazines féminins, mais parfois, il y avait un directeur artistique qui était un type qui était intéressant, qui mettait qui faisait travailler des photographes intéressants, qui mettait des images qui étaient fortes, etc. Donc en fait, on pouvait avoir envie de travailler pour un magazine dont a priori, on n'avait rien à faire. Un truc de, je sais pas, oui, enfin, féminin, enfin, des trucs de beauté, tout ça, mais s'il y avait un directeur artistique intéressant, on avait envie de travailler pour lui.
D'accord. Et là, tu fais ça pendant combien de temps? Et tu restes en France pendant combien de temps?
Bah, je commence à faire ça de manière très, très intensive. Et je voulais aussi faire des affiches. C'était mon rêve aussi de faire des affiches. Pour moi, c'est les affiches, les affichistes, Savignac, tout ça, les gens qui faisaient des affiches dans les années 50, 60. Pour moi, c'était comme de mettre des peintures dans la rue. Enfin, c'était un peu mon fantasme. C'était une époque où la peinture n'était pas très. Il n'y avait pas tellement d'intérêt pour la peinture en France.
C'est les années quoi, 80, 90 ?
Les années 80, oui. Ouais. Les années 80. Il y avait quelques peintres, mais qui avaient un peu de visibilité, mais pas beaucoup. Et ça paraissait un milieu un peu à l'époque, un peu off, quoi. Et moi, j'étais beaucoup inspiré par les taggers, les gens qui faisaient des graffitis à New York. Et moi, c'était un peu mon rêve, ça aussi. Je trouvais ça très, très excitant. Et je me disais, si on fait des affiches, si on utilise son dessin pour faire des affiches, c'est comme d'avoir des peintures dans la rue, ça communique. Encore, c'est pas la question de travailler pour une marque. C'est plutôt utiliser une marque
pour mettre des images à soi et communiquer
avec les gens, quoi. Envoyer des signaux, des images aux gens. Et la marque, moi, je voyais plus ça comme un sponsor pour diffuser mes images.
Ok, très bien. À l'époque, tu travailles beaucoup, tu t'en fais vraiment beaucoup, 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 parce que tu travailles pour tous les magazines de français et t'as des commandes tous les jours qui tombent.
Pas tous les jours, mais j'essaye tout le temps d'aller voir des gens.
Tu te bouges, quoi. T'es vraiment actif, t'es dans le mouvement.
Tous les jours, enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines, j'essaye d'aller voir quelqu'un, de téléphoner à un directeur artistique. C'est une époque où on pouvait téléphoner aux gens. Enfin, on ouvrait un journal, il y avait la liste des. Ça s'appelle l'ours. Il y avait la liste des gens qui travaillaient pour le journal, directeur artistique, rédacteur en chef. Il y avait le numéro de téléphone.
Une ligne directe.
Avec une ligne directe. Et donc, on pouvait, je l'ai fait, enfin, appeler le directeur artistique d'un grand magazine ou même de Vogue, c'était possible. Et lui dire, voilà, je suis illustrateur, je voudrais venir vous montrer mon dossier. Quand est-ce que ce serait possible? Et souvent, les gens disaient, venez la semaine prochaine. Ou parfois, il y avait des gens qui disaient, non, là, on n'est pas disponible, appelez-moi dans 2 mois. Enfin, ça arrivait aussi. Mais la plupart du temps, les gens, c'était possible d'aller voir des gens. Et à partir de là, c'était génial, parce que vous voyez quelqu'un, et puis on se rend compte si tout de suite,
ça
fait quelque chose, une sympathie ou un intérêt. Et puis on se rend compte aussi quand il n'y a aucune sympathie et aucun intérêt, mais c'était, voilà, ça c'était bien. Donc je l'ai beaucoup fait. Et je l'ai d'abord fait à Paris, et puis au bout d'un moment, je suis allé le faire en Angleterre, et puis après à New York. Mais je l'ai d'abord beaucoup fait aussi à Londres, où j'allais voir des gens, je téléphonais aux gens, je suis allé voir Vogue anglais, enfin, toutes sortes de magazines. Je voulais en fait travailler comme les photographes, c'était l'idée, j'étais très, très influencé, très inspiré par la photo, par les grands photographes, mais aussi par les photographes de mode aussi. Et je me disais, ce que je voulais faire, c'était pratiquer le dessin comme si j'étais photographe. C'est-à-dire de voyager avec ça, d'être envoyé dans des pays, de pouvoir travailler n'importe où et que mes images soient diffusées en grand et diffuser comme des photos, quoi, pas comme des petits trucs décoratifs. Ça m'a jamais intéressé. Je voulais que mes images soient utilisées avec le même sérieux que si quelqu'un mettait une photo. Parce que le dessin, ça a toujours un côté un peu... C'est toujours un peu infantilisé dans les magazines. Enfin, maintenant, je ne sais plus. Mais enfin, c'était un peu infantilisé. C'était petites images pour décorer le journal ou pour illustrer un truc parce qu'on n'a pas de photos. Enfin, c'était toujours un peu...
C'était un plan B, quoi.
Ouais, un peu le plan B. Moi, je voulais faire des dessins qui soient... qui soit, oui, comme une photo, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est ça que j'ai fait pendant longtemps.
Et pourquoi t'as pas été photographe?
Alors, pourquoi j'ai pas été photographe? Parce que ça me paraissait, il y avait toute une technique de la photo. Enfin, et puis parce que j'étais proche des images, proche du dessin. Oui, je l'ai fait, hein. J'ai fait deux fois des séries mode avec mon copain Christophe Brunkel, qui était à l'époque directeur artistique du Figaro, on a fait deux séries mode comme ça. Mais donc c'était un peu mon rêve de faire des séries mode comme photographe, mais c'est finalement plus facile que de le faire en dessin. Hein. Enfin, je dis pas ça pour les photographes, hein, ils sont très forts, hein, y a des gens merveilleux évidemment, mais pour moi c'était finalement plus simple que de... Je savais exactement ce que je voulais faire, il suffisait d'avoir le décor et puis voilà, de faire la photo avec la fille qui porte les vêtements. Enfin, c'était assez simple. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était avant tout quand même de peindre, de faire des images. Assez vite d'écrire aussi, faire des images et d'écrire. Mais ça, c'est un autre sujet.
Tu avais des héros à l'époque? C'était qui les illustrateurs connus de cette génération qui t'inspiraient?
Les rôles modèles? J'ai jamais eu de héros parmi les illustrateurs, en fait. Je pensais plutôt aux peintres, enfin.
Ouais. Tout de suite, depuis toujours.
Aux peintres ou aux photographes. Beaucoup aux photographes. Les illustrateurs, pas tellement. Non.
Tu en aimes quelques-uns?
Comment?
Tu en aimes quelques-uns, quand même?
Les illustrateurs?
Ouais.
Oh, bah, après, j'ai eu plein de copains, oui, mais. Quand je commençais, j'avais pas vraiment d'illustrateur en tête. Hein. Il y avait peut-être les gens qui faisaient des couvertures de New Yorker, des choses comme ça, mais pas spécialement.
Ouais.
Il y avait Jean-Jacques Sempé parce qu'il écrivait des textes, ouais. Etc. Je trouvais ça vachement bien. Mais sinon, comme modèle de, il y a aussi un illustrateur de mode que j'aime beaucoup, quoi, qui faisait lui aussi qui s'appelle Mats, qui faisait des dessins de mode à l'époque qui étaient très beaux. Voilà, mais sinon, non, je peux pas dire que j'avais des modèles.
Tu regardais plutôt les peintres, etc. C'est eux qui t'inspiraient?
Je regardais les peintres, Non, j'essayais d'avancer mes trucs. Et puis après, comme je les ai mélangés avec l'écriture aussi, j'avais plus ça en tête, en fait.
Au moment où tu pars à New York City, ça se fait dans la foulée assez naturellement, finalement, parce que tu vas interroger des magazines aussi là-bas pour proposer tes illustrations, c'est ça? Ça se fait dans la douceur, en fait.
Dans la douceur, oui, aussi, oui. Enfin, non, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu un effort, hein, de faire ça. Hein. C'est-à-dire que quand même, il fallait se pointer dans une ville, s'asseoir sur son petit lit, prendre son carnet où on avait doté des noms de directeurs artistiques en regardant des magazines dans la librairie, dans la librairie américaine, rue de Rivoli, là, chez Smith, voilà. Et puis appeler les gens out of the blue, c'est la petite chambre d'hôtel là. Puis I could speak to.
T'avais la boule au ventre quand tu faisais ça, ou ça se faisait assez naturellement, facilement?
Ben, c'est le truc, il faut y aller, quoi. Oui, ça fait peur, hein, évidemment. Et je commençais par le moins important pour moi.
Ok. Pour se chauffer un peu.
Ouais. Je commençais par le moins important. Et puis dès qu'il y en a un qui marche, on se dit, ah maintenant je vais appeler Vogue.
Ça y est, je suis sur une bonne, ouais. Une bonne lancée.
Non, il fallait quand même un peu persuader les gens, quoi. Il fallait même mettre la gomme et tout. Non, c'était... Il y avait un côté... Il faut sauter à l'eau, quoi. C'est-à-dire que Si on le fait pas, bah.
Et puis il faut y croire à fond. Il faut se dire on est la bonne personne pour
bah,
vous.
Une fois
etc.
qu'on a fait, même d'aller à Londres, une fois qu'on y est allé, qu'on est dans une chambre d'hôtel, qu'on a fait le trajet, tout ça, ou alors à fortiori à New York, on a fait 8 heures d'avion, 8h30. Bon, à un moment donné, c'est un peu comme de monter sur un rocher pour sauter, puis se dire ah non, j'ai tant pis, je vais redescendre.
C'est la lose, ouais.
On peut pas faire ça. Enfin, on peut le faire, mais après,
on s'en veut beaucoup.
On est ouais. très bien, quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas trop le choix. Non, puis ça m'excitait de le faire, ça me plaisait vachement de le faire.
C'est quoi qui te drivait?
L'envie de diffuser des images, d'avancer, de rencontrer des gens plus intéressants, que chaque image réussie me paraissait être la possibilité de rencontrer quelqu'un après qui me donnerait un truc plus intéressant à faire. C'est ça, comme ça que je voyais les choses.
C'est quoi ton drive d'ailleurs aujourd'hui encore?
Mon drive, c'est de peindre aujourd'hui, c'est d'être inspiré par, c'est de rester inspiré, de chercher des nouvelles choses que je pourrais peindre, de peindre mieux, de, c'est une quête, sans fin, quoi. C'est d'essayer de faire des choses qui sont le mieux possible. Enfin, c'est jamais fini, ça. Enfin, c'est même si on peint des gens, maintenant je peins beaucoup des gens ou des paysages, ça. C'est jamais fini. Parfois, je réussis une peinture, je peins quelqu'un, je dis, ah, je suis assez content de la peinture, mais une fois que c'est fait, bah, ok.
Next, ouais.
Ouais, c'est, maintenant il faut, qu'est-ce que je fais demain? Est-ce que je vais faire un truc peut-être mieux ou moins bien? Enfin voilà, c'est sans fin.
J'ai entendu dans un autre podcast là, que tu as fait il y a quelques temps que tu aspirais rentrer dans ce monde finalement, de ce monde peut-être de l'art, ce monde en être quoi, faire partie
ouais,
du truc.
Ouais.
Comment tu y es rentré et surtout la question c'est qu'est-ce que tu y as trouvé? Enfin, tu y as trouvé ton compte ou...
Dans quel monde? Dans le monde de...
Dans le monde de l'art, dans le monde... Enfin, tu vois, quand tu pars à New York, tu...
Oui, ben ça c'est... Tout m'intéressait, moi. Enfin, toujours d'ailleurs, mais à New York, quand je suis allé à New York, j'ai très vite rencontré les gens qui travaillaient pour Barney's New York. C'était un grand magasin qui n'existe plus, mais qui était un grand magasin de New York, qui était très chic, qui a été un peu l'inspiration pour plein de magasins, comme le Bon Marché à Paris, enfin beaucoup de magasins.
Tu les avais démarchés ou c'est une rencontre par hasard?
En fait, oui, je suis allé les démarcher. Mais j'avais un contact là-bas. J'avais un contact parce que une des directrices artistiques du magazine, qui s'appelait à ce moment-là Debbie Smith, elle avait été directrice artistique de Glamour, qui était un magazine pour lequel je travaillais dans les années 90 en France. Il y avait un Glamour qui était un magazine de mode qui était très, très en avance pour l'époque, qui faisait travailler beaucoup de grands photographes et qui avait un ton intéressant. Enfin, donc je faisais une série tous les mois pour ce magazine et cette directrice artistique, Debbie, était partie à New York et un jour elle me commande un petit dessin, enfin une genre d'invitation à des, je sais pas quoi, private sales, whatever. Et je fais ce truc-là et puis ça, je me dis, il faut que j'en profite pour aller à New York. Et puis peut-être j'ai fait un ou deux petits dessins aussi pour le New Yorker. Enfin voilà, et du coup j'ai lancé le truc, je me dis, il faut que j'y aille. Et de là, j'ai rencontré les gens de Barnes, ils m'ont donné à faire une première campagne de pub, qui était un truc qui n'existait pas, en fait, à ce moment-là. Il n'y avait jamais de campagne de pub pour des magasins de luxe, de vêtements en dessin. À l'époque, j'étais allé voir plusieurs marques, plusieurs grands magasins, et tout le monde disait, c'est bien, mais ça serait génial de faire une campagne de pub avec des dessins, mais... Malheureusement, on peut pas parce que c'est des vêtements, il faut que ce soit des mannequins qui les portent et tout, donc on peut pas. Sauf les gens de Barnes qui lancent une campagne et c'est 30 annonces. On a fait ça pendant 2 ou 3 ans. On avait fait des affiches, après des billboards à Los Angeles. Enfin, c'était une campagne fantastique qui était où le dessin, où enfin, mon dessin était utilisé.
En plan A.
Comme la photo.
Ouais, comme voilà, la photo.
Comme si ça avait été une photo.
Et soit, c'est toi qui leur as proposé ou c'est comment c'est basé?
J'étais allé les voir avec mon dossier et puis on discutait. Et puis avec les directrices de création de l'époque, qui s'appelait Ronnie Cook, on discute. On a parlé de photos de mode parce que je voyais des photos de mode que j'avais repérées avant. C'était une photographe qui s'appelait Corinne Day. C'était la photographe qui avait fait connaître Kate Moss. Et Mais à l'époque, Kate Moss, personne ne la connaissait. Mais j'avais vu des photos dans un magazine qui s'appelait The Face. Je crois que ça existe toujours, The Face, d'ailleurs. Et voilà, on commence à parler de photos de mode, etc. Puis on a sympathisé, je sais pas. Puis elle s'est rendue compte qu'on pouvait faire des... Elle a eu cette idée. Il y avait Corinne Day qui venait juste de faire une campagne pour eux. Et ils ont eu cette idée de me commander des dessins, de faire les annonces de vêtements pour Barnes avec des dessins. Et il y avait quelqu'un qui écrivait les textes, qui est devenu un ami très important pour moi, qui s'appelait Glenn O'Brien, qui était un poète, critique d'art, journaliste, qui avait aussi été rédacteur en chef d'Interview Magazine, qui avait travaillé avec Andy Warhol, enfin, qui était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de très amusant, très fin. Et lui, il écrivait les textes. Et avec cette bande de gens, en fait, j'ai rencontré tout ce que j'avais envie de rencontrer, tous les gens que j'avais, enfin, tout ce qui m'attirait à New York, quoi, de rencontrer d'autres artistes, des musiciens, enfin, d'être dans un milieu où...
Ça, c'est en quelle année?
C'était 93.
93, et là, t'as quel âge à cette époque-là?
J'avais 34 ans.
34 ans. Donc, t'as pas non plus 25 ans, quoi. T'as déjà un petit peu de bouteille derrière toi.
Ouais, ça fait déjà un moment que je travaille, ouais.
Donc, et t'as déjà un nom, t'as déjà une patte, t'as déjà un énorme book, t'es déjà quelqu'un dans le milieu, en tout cas, de la presse, quoi.
Ouais, parce que j'avais travaillé pour des magazines quand même, oui, pour des magazines importants. Pas très. Bah, il fallait quand même que je me fasse connaître, quoi. Mais c'est vrai que Barney's, c'était le truc qui m'a fait vraiment connaître. En tout cas, aux États-Unis.
Et puis à l'international, ouais. Et voilà. Puis Barney's, il y avait ce côté très avant-gardiste qui était. Tout le monde regardait Barney's à l'époque.
C'était super avant-gardiste. Et les textes étaient super drôles. Et c'était des pubs qui étaient complètement. Enfin, il n'y avait aucun équivalent de ça, quoi. Enfin, moi, je travaillais aussi librement que si j'avais travaillé pour un livre pour moi, quoi. Je faisais des personnages qui m'amusaient. Il y avait les textes de Glenn étaient textes très courts, un peu comme des petits haïkus, c'était toujours très drôle. Et les gens étaient vachement étonnés de ça, enfin, parce que les gens ils pensaient pas que c'était possible de faire ça, quoi. Et ça avait un crédit de sympathie parce que c'était marrant, au lieu que ce soit au lieu qu'il y ait un côté un peu glacé, un peu intimidant des modèles, des mannequins. Enfin, de certains mannequins, les gens s'y reconnaissaient. Il y a des gens qui me disaient « Ah, it's me, this ring. » Ou les gens collaient des... scotchaient des trucs sur leur frigo. « Ah, because I think it's me. » Et voilà, donc les gens, ils s'identifiaient, en fait, au dessin. Et donc ça, voilà, ça marchait. Et puis, on a rencontré des artistes, parce que Glenn connaissait, John Baldessari ou Alex Katz.
Oui, c'était le mec à connaître, en fait, à New York. Ouais. C'est incroyable d'être tombé sur lui si tôt, bah et de s'être accoquiné avec lui, surtout.
Bah ouais,
ça a vachement matché entre vous.
Bah oui, on était très, très amis. Et puis, mais c'était, pour moi, c'était merveilleux, parce que des gens de l'art que j'admirais, ou du moins, en tout cas, je ne pensais pas qu'ils pourraient s'intéresser à des choses...
du commerce,
quoi,
ouais.
Je sais pas, on rentrait Baldessari, il disait, oh, you know, I really love the ads, et tout ça, c'était vachement,
incroyable.
C'était génial. Et Alex Katz, pareil, Alex Katz aimait les dessins, tu sais, il était étonné par ça, tout ça, c'était.
Donc, toi, tu les connaissais avant de les rencontrer, tous ces gens?
Je les connaissais pas personnellement, mais je connaissais leur nom.
Ouais, bien sûr.
Sauf pour Alex Katz, dont j'avais jamais entendu parler, parce que c'est un peintre extrêmement connu aujourd'hui, il y a eu une rétrospective énorme au Guggenheim l'année dernière, mais en France, dans les années 90, il y avait vraiment très peu de gens qui connaissaient Alex Katz, parce que c'était de la peinture figurative, et tout le monde pensait que...
C'était has-been, enfin c'était...
La peinture, tout le monde pensait que c'était has-been, et de la peinture figurative, doublement, quoi. Et moi, les gens m'ont dit « Ah, tu devrais regarder ce que fait Alex Katz, ça me fait un peu penser à tes dessins, enfin, ou l'inverse. » Et on a dîné ensemble, et puis je me dis, mais... C'est incroyable, c'est vrai que on peut être peintre et ça peut être cool. On peut peindre des gens et ça peut être cool. À New York, je me dis si c'est cool à New York,
ça pourrait être cool à Paris aussi.
Voilà.
Très bien. Les grands milestones de New York. Donc t'as Barney's et c'est une aventure qui dure quelques années, une collaboration qui dure quelques années. C'est quoi les autres grands milestones, ce que tu retiens de ces aventures new-yorkaises? Qui n'est pas terminé d'ailleurs, parce que t'as...
Ouais, non, mais ça, c'était le truc le plus... Ça, c'était vraiment le truc le plus marrant. Après, j'ai fait une campagne de pub pour Saab, ça avait des dessins animés que je faisais, en Angleterre, d'ailleurs. Donc, les gens les voyaient, mais c'était pas aussi marrant que Barnes, parce que Barnes, c'était tout ce qu'il y avait autour, en fait. Après, aux États-Unis, j'ai fait d'autres choses, des choses ponctuelles, mais c'était le truc le plus important. Après, ce qui était important pour moi, c'est de faire mes livres. Après, j'ai fait des livres avec mes dessins et mes textes. Et le premier truc que j'ai fait comme ça, le premier livre que j'ai fait, c'était, je faisais une série pour le magazine Glamour qui s'appelait Polaroid de jeunes filles dans les années 90. Et ça, j'ai même commencé plus tôt, c'est la fin des années 80. Où les Polaroids à l'époque, c'était un peu comme les Instagram. C'est-à-dire que les gens, quand on est dans les agences de pub, dans les milieux qui se voulaient un peu branchés, un peu avant-garde, ils aimaient bien avoir des portraits d'eux en Polaroid. C'était comme des sortes de selfies, quoi. Et donc, je faisais des faux Polaroids et j'utilisais ça pour parler des gens avec des textes en dessous. Et puis après, à New York, on m'a commandé à un moment une chronique pour un magazine de déco qui s'appelait House and Garden. Et là, pendant peut-être 2 ans, j'ai fait tous les mois des dessins sur la déco, des dessins d'humour sur la déco. Est-ce que je l'ai pas dit, mais l'humour, c'est important pour moi. Je pensais que l'humour, c'était la meilleure manière de s'exprimer dans la société. Voilà, je trouvais que c'était... j'admirais moi, les dessins d'humour des autres. Enfin, j'admire les gens qui ont de l'humour. Et je me disais, ça, c'est si on peut faire passer des choses par l'humour, c'est vraiment la meilleure manière de prendre sa place dans la société, pour moi. Enfin, en tout cas, on peut parler de tout comme ça. Enfin, moi, ce qui m'intéressait, c'était les sphères culturelles, c'est-à-dire la déco, la mode, le design, la littérature aussi. Donc je fais ça pour House and Garden pendant 2 ou 3 ans, des dessins d'humour sur la déco, sur le design. Et puis après, j'ai commencé à faire des livres en France, publiés chez De Noël. Un livre s'appelle Drame de la déco, et puis après un livre sur l'art contemporain, un livre sur... Voilà.
D'accord, et qui était à chaque fois illustré de tes dessins et de tes textes, etc. Et...
C'était à chaque fois... comme ce que les Américains appellent des cartoons, en gros, c'est-à-dire que c'était un dessin en couleur, à la gouache, et puis en dessous, un texte assez simple, voilà, assez lapidaire. Et les deux formant un dessin d'humour. Voilà.
Très bien. À l'époque, comment t'envisages tout ça? Parce que comment tu te positionnes? Tu te vois déjà? Est-ce que la finalité, finalement, la projection, c'est de dire un jour je serai peintre que peintre? Comment tu te projettes, toi, dans la société? C'est quoi tes plans? T'as pas peur du lendemain, etc. Il y a un côté très... tu te laisses vivre?
Non, je me laisse pas vivre du tout. Non, à l'époque, à l'époque, à ce moment-là, je suis très motivé par le fait de voyager. J'essaye de voyager le plus possible. C'est-à-dire, dès qu'il y a une occasion de voyager, de retourner à Tokyo, je vais souvent à Tokyo. À l'époque, je vais souvent travailler pour des gens à Tokyo. Ou passer le plus de temps possible aux États-Unis. Enfin, j'essaie toujours de... à ce moment-là, plus je voyage, plus j'ai l'impression d'être dans le mouvement. Ouais. Et donc, j'essaie constamment de trouver des gens pour qui ça serait intéressant de travailler ou de développer des choses, de développer mes livres, d'écrire des textes. Enfin, j'ai aussi publié un premier roman. Enfin, c'était en 98, ça. Donc j'essaye tout le temps d'être en expansion, quoi. Enfin, c'est ça. Sinon on recule. Enfin, je veux dire, moi je pensais ça. Enfin, et j'essaye de trouver un équilibre entre travailler de temps en temps pour des trucs de pub ou des choses qui rapportent de l'argent pour pouvoir être tranquille, pour faire d'autres trucs qui m'intéressent plus, évidemment, parce que quand on fait des livres, ça rapporte quasiment rien. Et les magazines, ça rapportait très peu d'argent aussi. Mais c'était une manière de montrer des images intéressantes, les magazines, ou d'écrire. Enfin de... Donc c'est un équilibre entre des commandes de pub qui ne sont pas forcément... Enfin, j'essaye de trouver quand même des commandes de pub où je peux quand même faire des choses qui me sont proches, quoi. je fais pas, j'essaye d'éviter des trucs où on va me demander de faire un truc que j'ai pas envie de faire. Donc je choisis ça, et voilà, c'est un équilibre entre tout ça. C'est un équilibre, ça me permet d'avoir la liberté de voyager, de faire des livres, de pas être tributaire, d'être le moins tributaire possible des autres, en fait.
Oui, bien sûr. Comment tu choisis tes projets?
Je regarde si c'est intéressant, je regarde si je peux trouver une bonne idée. Je fais des trucs où je peux trouver une idée, moi. C'est-à-dire pas les trucs où il faut reproduire l'idée de quelqu'un. Parce que ça m'intéresse pas, et puis ça sera moche. Donc non, j'essaie de trouver un truc où je peux... Et il faut que je sente aussi une affinité avec les gens qui me demandent qui me proposent de faire quelque chose. Bon, c'est une alchimie, quoi.
Qu'est-ce qui fait que tu matches avec les gens?
Si je sens qu'on a un peu le même sens de l'humour, si je sens qu'ils me font confiance, enfin, je fais plus du tout ça. Mais à ce moment-là, c'était si je sens que les gens seront ouverts à ce qu'on fasse un truc amusant, quoi, qu'on pousse un peu le truc. Ce qui est intéressant dans la pub, ou même pour les magazines, c'est quand on fait un truc qui dépasse la simple réponse à la question, quoi. Qui propose autre chose. Il faut utiliser tous ces trucs-là pour proposer autre chose, pour que quelqu'un qui passe sur le quai du métro ou qui regarde un magazine...
Qu'il fasse sourire, ouais.
Intéressant que simplement voir un truc super flat qui est juste une réponse typique à un problème. Enfin, voilà.
T'es dans la recherche de la double, triple lecture en permanence.
J'ai essayé de faire ça, que des amis puissent sourire en voyant ça, ou que des gens que je trouve intéressants puissent trouver ça bien. J'ai toujours eu ça en tête. J'ai toujours pensé à si telle personne qui représente quelque chose pour moi voit ça, qu'elle se dise pas quel con, c'est moche.
C'est naze.
C'est juste de gagner son fric là, d'une manière un peu ringarde. Non. Donc j'ai toujours essayé de faire un truc.
Qu'est-ce qui te fait rire, toi?
Qu'est-ce qui me fait rire?
Ouais.
Oh, bah, plein de quantités de choses. Hein. C'est difficile à dire comme ça. Parfois, c'est les échanges avec les gens. C'est souvent ça ce qui est le plus drôle. Je n'ai pas d'exemple comme ça. Je ne suis pas particulièrement spécialement fan d'un seul truc qui me ferait rire. C'est plus le hasard, enfin les choses qu'on voit ensemble avec quelqu'un. Ou même voyager avec quelqu'un. Il y a plein de trucs marrants. Enfin...
Bien sûr. J'ai l'impression que tout ce travail, c'est la réalité, tout ça de pub, d'illustration, etc. est derrière toi. Aujourd'hui, t'es rentré dans une nouvelle ère. Est-ce qu'on peut parler de ça ou pas?
Bah, pour moi, j'ai toujours fait des peintures en parallèle des commandes que je faisais. C'est-à-dire que ça a toujours été des choses que j'ai toujours menées en parallèle de peindre des paysages ou parfois mes proches. Enfin, donc c'est une chose qui a toujours existé pour moi. Je me suis pas tout à coup dit un jour, tiens, je vais faire de la peinture. Ça a toujours été en parallèle. Et puis à un moment donné, si par exemple, il y a une époque aussi, j'ai essayé de faire des choses pour la mode. Enfin, j'en ai fait, mais à un moment, j'ai pensé qu'avec la mode, on pouvait faire quelque chose qui soit ce qu'on pouvait pas faire dans la peinture, c'est-à-dire peindre des gens. Et je pensais qu'avec le dessin de mode, c'était une manière de peindre des femmes, par exemple. Alors avec le prétexte de certains vêtements, mais ça permettait de se rapprocher d'une peinture plus classique, où les gens peignaient, une quantité de peintres du 19e siècle qui peignaient des femmes, ça peut aussi être des hommes, évidemment. Mais voilà, d'avoir quelqu'un qui vient poser, de le peindre avec les vêtements, et dans un décor, ou pas le décor, mais enfin voilà, c'était ça qui m'intéressait dans la mode. C'était pas la mode en soi. Il y a des gens que je trouve évidemment intéressants comme design dans ça, mais c'était pas la mode ou le monde de la mode, c'était plutôt un prétexte pour peindre des figures, des personnages, des gens de manière réaliste. Mais ça a toujours été un peu difficile à faire. Et mon rêve, par exemple, ça aurait été qu'on me donne qu'on me dise, voilà, vous avez un modèle, et puis il y a des vêtements, puis de peindre, de dessiner le modèle avec les vêtements de la collection. Ça, ça n'a jamais été possible. Personne n'a jamais... J'ai souvent essayé de le faire. Les gens me disaient, ah non, mais on ne peut pas faire ça. Mais les gens me donnaient des photos à la place. Alors, si c'est moi qui faisais les photos, c'était déjà plus intéressant. Et je l'ai fait aussi. Je fais des séries sur des backstage, des défilés où je faisais des photos. Ou même des photos de défilés que j'utilisais après pour faire mes dessins en étant assis parmi les spectateurs. Donc tout ça, c'était compliqué, mais bon, on pouvait faire quand même des choses avec ça. Mais ça avait ses limites, quoi. Ça avait ses limites. C'était des choses un peu sporadiques, comme ça. En fait, ce que je voulais, c'était avoir quelqu'un qui vient dans mon atelier poser sans avoir de contraintes de quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'étais à New York il y a une douzaine d'années, en fait.
Ok. Comment tu décris ton style, ton esthétique, est-ce que tu le décris? Ça t'arrive de le décrire?
J'essaye de pas avoir d'esthétique, en fait. J'essaye pas d'avoir un style. J'ai jamais essayé ça, en fait. J'essaye de faire. Alors, faut dire qu'il y a deux. Il faut dire qu'il y a deux époques, en fait. Il y a une époque où ce qui m'intéressait, c'était de représenter des traits de société, des styles de gens. C'est pas moi d'avoir un style, c'était plutôt de représenter des styles de gens, de les caractériser. Donc pendant toute une époque, quand je faisais des choses pour les magazines, pour mes livres, etc., c'était vraiment... J'essayais de synthétiser des choses et de faire des dessins qui ont une sorte d'énergie qui synthétise et qu'avec des détails infimes, on puisse se dire, ah, lui, c'est tel genre de personne, ou ça, il appartient à tel genre de classe sociale, ou enfin voilà, des choses comme ça. Ou c'est un type qui rentre dans une galerie d'art, et quelqu'un qui rentre dans une galerie d'art, la plupart du temps, a une certaine façon de se tenir, etc. Donc voilà, c'était ce genre de choses que j'essayais de faire. En accentuant comme ça des signaux dans le dessin, quoi, en poussant un peu les choses, quoi. Et puis, quand je peins aujourd'hui, je fais l'inverse. J'essaye, au contraire, d'avoir aucune idée préconçue, mais de simplement regarder, quoi. D'être une sorte de filtre, c'est pas le mot que je cherche, d'être une sorte d'enregistrer ce que je vois, quoi, de le peindre ce que je vois, mais sans rien rajouter, sans rien forcer, en étant le plus épuré possible, quoi, de presque disparaître en face du paysage ou de la personne, c'est difficile, mais enfin voilà, c'est la démarche inverse, c'est m'oublier le plus possible pour donner toute la place à ce que je vois. Et c'était l'inverse de ce que je faisais avant, où j'essayais plutôt de transmettre une opinion ou un point de vue sur quelque chose. Là, j'essaye plutôt de simplement montrer la beauté d'un paysage, la beauté ou la fragilité d'une personne ou d'une lumière, la beauté d'une lumière ou la simplicité d'un objet. C'est l'inverse. Moi, j'essaye plutôt de me faire disparaître d'oublier, quoi. Comme quand on marche ou qu'on est dans la nature, on pense pas à soi, quoi. Voilà.
Quel a été il y a eu un déclic, non, entre ces deux périodes, il s'est passé quoi?
Ça, c'est vraiment arrivé à l'époque où on habitait à New York avec ma femme et mon plus jeune fils. On était, c'était en 2009-2010. Parce que j'étais beaucoup allé à New York, faisant des allers-retours, en restant 15 jours, tout ça, 3 semaines, mais des allers-retours. Et là, on a vraiment habité pendant un an là-bas. Et là, c'est là que j'ai commencé. C'était une année, c'était juste après la crise économique américaine. Donc, il y avait très peu de... Il n'y avait aucune commande. Il n'y avait aucune commande qui permettait de vraiment pouvoir vivre longtemps aux États-Unis. Parce qu'on pensait, bon, ça coûte cher de vivre à New York. Donc, cette année, il n'y avait aucune commande. Donc, bon, j'y vais un peu sur mes réserves. Et puis, Et c'était une époque aussi, c'est le début du blog, chose que tout le monde a oublié, mais je m'occupais de ça. Je faisais un blog qui s'appelait The Unknown Hipster. Et donc je me promenais dans New York, j'allais rencontrer des gens, je faisais des dessins de ça, j'écrivais des textes autour de ça. Et puis je me suis mis à faire beaucoup de peintures aussi de paysages que je voyais dans New York. Je me promenais le matin et puis je voyais une scène et puis je rentrais la peindre. Et puis après, j'ai loué un atelier. Après, on est rentré habiter à Paris, mais j'ai loué, comme ça me faisait horreur de quitter New York parce que j'ai préféré être là-bas. Je me suis dit, bon, on ne peut pas avoir un appartement là-bas, mais je peux garder un atelier. Donc j'ai commencé à louer un atelier, un endroit uniquement pour travailler, où j'allais régulièrement. Et puis après,
C'est-à-dire que tu allais vraiment là-bas juste pour bosser.
Oui, oui,
c'était
juste pour bosser.
Tu dormais dans l'atelier et basta cosy, quoi.
Non, j'allais soit. Fallait que je loue un truc en plus. Mais je louais un truc pour 15 jours. Pour voilà. C'était pas encore de Airbnb à ce moment-là. Mais enfin, voilà, je louais un truc quand j'étais là-bas. Mais au moins, j'avais un endroit que je retrouvais qui était mon atelier. Et au début, j'avais loué un truc, un petit atelier à Union Square, où j'ai travaillé là-bas pendant peut-être, je sais pas, 2 ans. Puis après, j'ai rejoint mon copain Thomas Fougerol, qui est artiste, enfin, est peintre, qui louait un très grand atelier à Bushwick, à l'extérieur de Manhattan. Et là, on a commencé à louer ça ensemble. Enfin, lui, il louait ça avec un autre copain qui s'appelle Mo. On était trois. Et voilà. Et là, j'ai travaillé là-bas pendant une dizaine d'années, en fait. Et c'est là-bas que j'ai commencé à faire des paysages tous les jours. Quand j'allais là-bas, il y avait une vue magnifique sur Manhattan. On voyait, c'était loin de Manhattan, c'est Bushwick, sur une colline. Et puis entre Manhattan et Bushwick, il y a des friches industrielles, des immeubles, des warehouses. Enfin bon, donc il y avait tout ce paysage que je trouvais merveilleux. Il y avait des camions, il y avait des citernes, des grues, enfin toutes sortes de choses. Tous les jours, quand j'arrivais dans l'atelier, ce que j'avais envie de faire, c'était de peindre la vue. Et de nouveau le soir, quand la lumière changeait. Et pendant une dizaine d'années, en fait, je peignais la vue. Voilà. Et après.
C'est une obsession, c'est obsessionnel finalement de peindre la vue, les lumières
changeantes. C'était tellement
changeantes.
Bon, quoi. Ouais. Quand j'arrivais dans ces ateliers.
Ça t'inspirait.
La vue était. Enfin, il y avait toujours quelque chose, quoi. Et donc, je faisais ces paysages devant la vue. Et puis après, je me suis enfin décidé à faire venir des gens, à faire poser des gens dans l'atelier.
C'est quoi le déclic là? Pareil, tu t'es autorisé.
Ça m'a pris beaucoup de temps de le faire. C'est une chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'osais pas faire. Je me disais, j'avais peur que les gens trouvent ça saugrenu, que je trouve ça bizarre, qu'on leur demande de poser. Il y avait aussi une époque où ça paraissait être un truc super passéiste. Et même au début, quand je faisais ça, quoi, même à Paris, quand j'en parlais aux gens, ah ouais, il fallait trouver ça un peu, genre peinture à l'ancienne et tout. Enfin, les gens trouvaient ça con. Enfin, ça a un peu changé de ces dernières années, mais les gens trouvaient ça con. C'était, ils pensaient qu'on voulait redevenir peintre, comme autrefois. Alors que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était d'avoir quelqu'un de réel. J'avais pas envie de faire un truc d'imagination. Enfin, je m'en fiche. Enfin, ça m'intéresse beaucoup plus de voir quelqu'un, de regarder quelqu'un qui est debout, dans la lumière, dans l'espace, de regarder quelqu'un face à face. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'imaginer quelque chose. Je l'ai fait avant, mais enfin, bref, ça m'intéressait beaucoup moins d'imaginer que de regarder. Et cet atelier, ça a été vraiment le moment où ça a changé, ça. Je me suis dit, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est regarder, peindre le fait d'être présent, là, quelque part, dans la lumière du jour, ou la personne qui était avec moi à ce moment-là.
Et
changement complet de philosophie.
Ouais. Donc enfin, ça, c'était il y a une dizaine d'années, enfin, ouais. 10-12 ans, quoi, grosso ouais. modo.
C'était, ouais, c'est ça, ouais.
Et là, en fait, tu te...
Enfin, je peux encore faire des blagues, hein, je te rassure.
Ça me rassure.
Je suis pas devenu une sorte de moine qui observe.
Qui fait que aussi l'observation, ouais. Ouais.
Mais voilà, mais en tout cas, pour la peinture, c'était vraiment ça qui me...
Et ce switch, finalement, de artiste commercial ou illustrateur, je sais pas comment tu le définis, à artiste peintre, où tu vends des toiles, ça a été simple, c'était compliqué, c'était difficile de faire accepter. Parce qu'à un moment donné, bah, il faut vendre pour pouvoir survivre.
Ouais, mais non, mais je faisais des expos avant aussi avec les dessins à la gouache, les dessins des livres. Avant, ce que je faisais, c'était beaucoup de choses sur papier à la gouache. Parce que la raison aussi, c'est comme je faisais beaucoup de choses qui étaient destinées à être imprimées, c'était, je pouvais les scanner, c'était, voilà. Et puis j'aime beaucoup la gouache, j'ai de très belles couleurs. Enfin bon, j'avais plein de choses aussi qui m'intéressaient là-dedans, dans le papier. J'aimais beaucoup le fait que ce soit très très simple, très minimal, que je puisse le faire dans n'importe quel endroit, n'importe quel pays, avec juste
Local, ouais.
Local, voilà, qui variait en fait, qui est d'ailleurs la manière dont
avec
ça...
Avec un pH différent,
ouais,
j'imagine.
Oui, ça varie en fait. Oui, donc, mais je faisais des expos de temps en temps de mes dessins. J'en ai fait à New York, à l'époque je faisais Barnes, enfin j'en ai fait plusieurs, à Paris, à la galerie Martine Gossio, enfin je fais pas mal d'expos au Japon aussi. Donc après, la première expo que j'ai faite, c'était de peinture de paysage, c'était à New York, chez Lucien Terrasse. Et Lucien Terrasse, qui avait une grande galerie à New York, et puis après qui a eu un Project Space, puis qui travaille aussi, on travaille ensemble à la galerie Perrotin, quand on fait des expositions. Lucien, c'était en 2013, 2015, je crois, il était venu à l'atelier, il habite New York, il était venu à l'atelier à New York, et c'est la première personne qui s'est intéressée à ces paysages que je faisais. Que j'étais, je pensais pas que ça intéressait les gens. Ça, je faisais
Tu
du
le faisais
pays.
que pour toi.
Je les faisais parce que j'avais envie de les faire. Je peux pas dire pour moi, parce que pour moi, non, j'avais envie de les faire. C'était ce qui me paraissait le plus honnête, le plus réel, le mieux, quoi. Enfin, j'avais envie de faire ça. Donc, je faisais ces paysages, je me disais, ça va peut-être pas intéresser les gens parce que pour les gens, c'est trop simple. C'est trop simple, il faut qu'il y ait un truc un peu provocateur, ou qu'il y ait un twist, ou qu'il y ait un truc spectaculaire, ou une production qui coûte cher, ou quelque chose pour que ça intéresse des gens. C'est un peu bête de le dire des gens de l'art, mais pour que ça intéresse, il faut que... C'est trop simple. Mais c'est ça que j'aimais, c'est que c'était justement très simple. Donc je montrais d'autres trucs à Lucien, des peintures, un peu des compositions, des trucs plus grands. Et puis il voit ça, il dit, ah, ça c'est vachement bien ça. Et puis il m'a proposé de faire une expo avec les paysages. Et la première expo qu'on a faite, ça a bien marché. C'était sur Broome Street, dans le Lower East Side. L'expo, c'était que des petits paysages sur des petits formats, tout ça. Ça aussi, les petits formats, les gens, parce que souvent les gens sont là, ah, il faut faire des grands formats, les grands. C'est-à-dire, on fait des petits. Ah, mais tu fais aussi des grands formats. Les gens, ça les rassure. Les grands formats, ils ont l'impression qu'il
Ils en ont pour leur
faut un
argent.
truc, un gros truc, quoi. Et non, des petits formats que je fais sur le moment, que je retouche pas, etc. Et ça a touché les gens. Les gens, ça les touchait. Et de là, on a continué. Et puis, voilà.
Et aujourd'hui, tu es au top du game.
Alors, non, après, on a fait des expos. Après, je suis allé assez longtemps à Los Angeles. J'ai fait toute une série de peintures de Los Angeles, et c'est là qu'on a fait avec ces peintures, on a fait la première expo à la galerie Perrotin. Emmanuel Perrotin a proposé de faire une expo ensemble. C'était une série de peintures de Los Angeles, des paysages.
C'est magnifique d'ailleurs.
Merci, mais j'étais très
Et
content
tu
de
as
faire
d'ailleurs
ça.
toujours illustré tes. Enfin, tu as parce que on a sous les yeux ce livre-là, Jean-Philippe Delhomme, Paintings. Où il y a d'ailleurs ces images, ces paysages, etc., enfin, qui archivent, en tout cas, qui illustrent toute cette période. C'est important de faire des livres comme ça pour marquer, imprimer dans l'histoire, enfin, sur papier, en tout cas, documenter, c'est le mot que je
Oui, mais
cherchais.
j'ai toujours, enfin, j'ai toujours eu envie de faire des livres. C'est pour moi, c'est très important. C'est un moyen de communication que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup l'idée de savoir que quelqu'un va prendre le livre et sera en train de le regarder tourner les pages, ça sera absorbé dans le livre. J'aime beaucoup communiquer ça. Enfin, arriver là, quand. Donc j'ai publié plusieurs romans, j'ai fait des livres de dessin. C'est important, les livres. Et parfois des petits livres. J'ai fait publier un petit livre de poèmes il n'y a pas très longtemps. Dès qu'il y a la possibilité de faire un livre, voilà, j'essaye de saisir l'occasion.
Très bien. Il y a un truc qui. Récemment, j'ai interviewé plusieurs artistes et c'est une question qui revient. C'est c'est que son travail s'inscrive ou pas dans l'histoire de l'art. Est-ce que c'est un truc que tu as en tête, toi, quand tu travailles et auquel tu fais attention?
Non, pas du tout, parce que... Non, parce que l'histoire de l'art, pour que les choses s'inscrivent dans l'histoire de l'art, mais qui est un peu un truc un peu cassé aujourd'hui, parce que je pense que il y a une espèce, une sorte d'idée de progrès dans, dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire que il y a l'idée d'aller vers quelque chose de plus en plus de rupture permanente et de rupture ou d'avancée. Alors évidemment, c'est idiot de dire que le cubisme, ça serait mieux que les paysages impressionnistes, qui seraient eux-mêmes mieux que les peintures de Manet, ou que les peintures de Manet seraient mieux que celles de Courbet, etc. Donc c'est idiot, mais on a été, enfin en tout cas, tous les gens qui ont fait des études à la fin du XXe siècle, on avait cette espèce d'idée qu'il fallait tout le temps pousser là, un peu... pousser la limite ou faire un truc plus transgressif, plus spectaculaire, plus hard, plus minimal, enfin toujours aller vers un plus, quelque chose de plus. Et il y a des gens qui continuent à faire ça et c'est bien, mais moi j'ai jamais je vois pas comment m'inscrire là-dedans, enfin ça m'intéresse pas, enfin pour moi, hein. Parce que j'ai tout ce paysage sous les yeux, je sais qu'on peut, je vois tout ce qu'on peut faire. Je connais l'histoire de l'art. Ça m'intéresse de parfois simplement peindre un livre et un bouquet de fleurs, tout en ayant conscience de ce paysage qu'il y a autour. Donc en fait, tout ce que je fais, je sais qu'il y a ce paysage-là autour. Mais justement, je choisis quelque chose d'extrêmement simple, qui est, je pense, une présence au monde, qui cherche pas à entrer dans une histoire de l'art, auquel je crois pas vraiment. Enfin, une histoire de l'art aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme l'histoire de la musique, quoi. On a à notre disposition des millions de disques, de possibilités, mais se dire qu'on fait avancer, enfin, je pense pas que quelqu'un puisse se dire, je vais faire avancer, faire un bond en avant. Je crois pas. Après, c'est des positionnements. C'est comme d'être à un dîner et puis de faire la remarque marrante à un moment, ou de faire la remarque profonde, ou faire la remarque ennuyeuse. Enfin, mais c'est pas plus que ça, quoi. Enfin, je pense pas que ce soit plus que ça. Alors après, il y a des courants de gens qui, par exemple, là, si on pense au, il y a tous les artistes noirs américains qui n'intéressaient pas les gens, enfin en tout cas très peu de gens, qui étaient totalement minorés. Et aujourd'hui, bon, il y a une énorme retour, enfin, aux présences. Tout à coup, tout le monde s'intéresse, enfin, les gens du monde de l'art s'intéressent beaucoup à ça. C'est devenu très très visible. Donc ça, c'est intéressant. Ça paraît nouveau parce que ça n'intéressait pas les gens. Enfin, c'était mis un peu de côté. Il y a toutes les femmes qui font de l'art aussi, de la peinture, ça aussi, c'était un peu bon. Alors, donc il y a aussi un énorme mouvement autour de ça. Mais si on pense à l'histoire de l'art en général, je ne pense pas qu'il y ait des choses qui fassent avancer. C'est des possibilités, c'est comme en écriture, on peut écrire un roman, mais je ne pense pas que quelqu'un puisse se dire « je fais avancer la littérature ». Je crois pas. Enfin, mais des positionnements, d'être à telle place, de dire telle chose à tel moment, d'avoir tel coup d'œil, voilà.
Et comment tu te positionnes, toi, dans ce monde ?
Moi, c'est ce que je te dis, ce que je te disais, c'est, je regarde, j'essaye d'enregistrer, oui, une présence, d'être. J'essaye d'une sorte de simplicité, quoi, tout en ayant conscience de l'hyper médiatisation de tout aussi. C'est ça aussi que je cherche, c'est de démédiatiser au maximum. La peinture, pour moi, c'est justement une manière de sortir de la médiatisation, de la médiatisation du monde. C'est-à-dire qu'on est, on a tout le temps un accès, enfin, on est envahi, en fait, par la médiatisation de tout. C'est-à-dire que on est envahi d'Instagram, on est envahi d'images, de choses à distance. Donc la peinture, c'est une manière de couper la cour à ça, de sortir de ça. C'est plutôt marcher ou nager plutôt que d'être couché sur son lit avec espèce de lunettes, là, de, tu sais, les trucs, là, les masques de réalité virtuelle. Donc voilà, c'est une manière de sortir de la réalité, réalité virtuelle. C'est, parce qu'on a la chance quand même de... Voilà, on a la chance d'être en vie, de voir la vie des autres, de voir le monde, de pouvoir se déplacer, de sentir les choses. Enfin de... Donc si on peut sortir d'un flot d'images qui ont déjà été fabriquées par les autres, c'est bien, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. Pour moi, faire de la peinture, c'est comme de sortir, me promener, quoi. Quand je peins quelqu'un. Enfin, c'est...
Tu ressens quoi d'ailleurs et tu penses à quoi quand tu peins ?
Si je peins un paysage, j'essaye d'être totalement absorbé dans le paysage. Alors c'est un double mouvement. Il faut à la fois être absorbé, être sensible à ce qu'on voit, s'oublier. C'est pour moi le plus important. S'oublier au maximum pour ne plus être qu'une sorte de transparence entre ce qu'on fait et le paysage. Et en même temps, il faut, comme on peint, qu'on essaie de faire quelque chose, il faut aussi prendre du recul. En tout cas, pour le genre de peinture que je fais, moi, j'ai besoin aussi de prendre du recul, de me dire est-ce que ce coup de pinceau, est-ce qu'il est judicieux, est-ce qu'il est lourdingue, toujours de prendre du recul et en même temps s'oublier. Voilà. Et quand je peins des gens, c'est un peu la même chose. Quand je peins des gens, souvent on parle, on discute, etc. Mais c'est simplement essayer de regarder en essayant d'avoir le moins d'idées préconçues à l'avance pour vraiment voir comment cette personne est devant moi. Et puis, donc d'une certaine façon, on peut pas dire qu'on se perde dans quelqu'un, c'est pas vrai, mais il faut quand même essayer de voir sans parce que souvent le problème souvent c'est que quand les gens viennent poser la première fois, on a souvent une idée de quelqu'un, on a une idée, on dit ah ça c'est quelqu'un qui est comme ça, donc ça c'est pas intéressant, il faut se dire non en fait je sais pas comment c'est, il faut regarder, donc s'absorber, s'oublier et puis en même temps prendre du recul pour se dire ah oui mais là je suis en train d'aller, la forme du menton où je fais une très grosse tête où finalement c'est pas vraiment ça. Enfin, sans arrêt, c'est un double mouvement quoi. Oublier et puis se ressaisir pour dire là il y a trop de choses ou c'est pas suffisant ou ça manque de, ça décolle pas, ça manque de. Il y a tout ça qui compte, quoi. C'est pas assez minimal, ou là, ça devient un peu bête. Enfin, voilà, il y a tous ces trucs-là.
Comment tu choisis tes modèles ?
C'est des gens, parfois, c'est des gens que je rencontre, parfois des gens que je rencontre, parfois des gens que les gens me. C'est arrivé que les gens me disent, tiens, peut-être tu me présentes des gens, des amis d'amis, ou. J'essaye de trouver des gens que j'ai envie de peindre parce que leur visage m'inspire. Enfin, je cherche pas des gens qui soient spectaculaires ou qui aient des styles forcément. J'essaie de peindre des gens qui aient à la fois quelque chose de pas de neutre, mais qui soient pas, qui correspondent pas à un type trop précis, quoi. C'est pas une caricature, quoi. C'est pas non plus c'est pas une photo, il faut non plus que ce soit une photo comme les photos qui sont en exemple dans les dans les photos des magazines ou les photos dans je sais pas, les photos qui sont en exemple dans chez un photographe qui de portrait par exemple, c'est, ou chez un coiffeur, enfin voilà, c'est bon, c'est voilà, c'est ça, c'est de trouver des visages qu'on n'arrive pas très bien à saisir, qui sont inspirants mais qu'on n'arrive pas complètement à saisir et caractériser, qui est un truc qui dépasse ça. C'est ça que j'aime bien quand on arrive à trouver ça.
On te fait des commandes aujourd'hui?
Ben, j'en fais jamais, moi, de
portraits, etc. Non,
parfois ça arrive que les gens demandent, mais.
Ça t'intéresse pas?
Je préfère pas le faire.
Pourquoi?
J'ai pas envie.
Ouais, ça te gonfle. Ouais.
Non, mais ça peut. Non, je préfère peindre en ayant la liberté de peindre de manière que je veux, quoi. Enfin. Non, je suis très flatté si quelqu'un me demande. Enfin, je suis flatté, c'est. Plaisir, je trouve ça bon. Que si quelqu'un me dit, est-ce que vous voyez. Mais je le fais pas parce que j'ai envie de garder une sorte de liberté de pouvoir peindre sans me soucier de remplir une commande, de faire plaisir. Ou de...
Ouais, si t'amoches la personne, c'est terrible.
Bah, j'ai pas envie de faire un portrait qui enlaidisse quelqu'un, c'est pas l'idée. Non, j'essaye simplement de faire quelque chose qui tienne comme portrait, qui. Voilà. Qu'elle, je crois, où les gens peuvent se projeter ou sentir une présence ou sentir justement que quelqu'un est justement un peu absent dans le portrait. Ça, j'aime bien quand on arrive à faire ça. C'est vraiment de l'exercice de liberté, quoi. La commande, c'est autre chose. Bon. Pourquoi pas, mais en général, je préfère choisir les gens qui viennent poser. C'est important aussi que les gens, c'est important aussi que la personne qui pose soit dans la peinture. C'est-à-dire que c'est important. Il faut que la personne qui est en train d'être peinte participe, en fait. Et il y a quelque chose, il y a un truc qui est pas vrai, qui se dit, qui pas vraiment, on peut pas vraiment le dire ou l'expliquer, mais c'est quand même une atmosphère qui fait que il y a des gens qui font que je sais pas, ça marche mieux. Enfin, il y a quelque chose qui fonctionne. De même que quelqu'un qui aurait pas du tout, qui serait pas du tout dans la peinture, c'est difficile. Enfin, ça marche pas bien.
Comment tu progresses?
Bah, c'est d'essayer de. Je sais pas, de faire attention, d'épurer, mais on sait jamais comment on progresse. Hein. Des fois, on perd le truc pendant une semaine, puis ça revient. Enfin, c'est une chose qu'on n'a pas tout le temps disponible. Hein.
Ah oui, la justesse. La
justesse, le fait que ça décolle ou pas, quoi. Ça fly ou ça fly pas, quoi. Mais c'est vrai, Et c'est la même peinture, c'est bon, tout est là, mais il y a des jours où on a l'impression que la peinture colle ou que les pinceaux sont mal foutus, que chaque trait c'est pas ça. Et puis des jours où parfois, je sais pas, tout tombe bien. J'essaie vraiment de faire de peindre de manière le plus légère possible, où ce qui compte, et qu'on sente que les touches de pinceau ont un sens, que c'est pas du remplissage ou que c'est pas lourd. Que voilà. Donc j'essaye de faire sorte que chaque truc ait une raison d'être, une raison minimale, quoi, d'être, pas plus que ça, quoi, pas en rajouter, ni que ce soit insuffisant, mais voilà, que chaque trait de pinceau ait l'air d'être un peu, que ce soit vivant, quoi. L'idée, c'est que la peinture ait l'air de. Une matière vivante, enfin, comme des, je sais pas, des sortes d'électrons qui se déplacent, quoi, pour que le truc ait l'air de vivre.
Ça t'arrive de supprimer ou de je sais pas comment, de détruire une œuvre?
De rater.
Ouais, de rater, de dire, ok,
oui,
bah,
ça arrive.
Repeins tout en blanc pour repartir de plus belle.
Oui, ça arrive, mais alors ça a jamais marché de repeindre en blanc. Ouais. Quand c'est raté.
Il faut la détruire.
Ouais, je pense que beaucoup de peintres sont dans cette situation où Il n'y a rien de plus énervant et de plus vexant et de plus de rater un truc, une peinture. Ça, en soi, ça n'a aucune importance, tout le monde s'en fout, personne ne sait que la peinture existe ou elle a existé. Mais c'est d'être là en train de faire une peinture. Et puis, alors, souvent, on s'acharne. Enfin, moi, on essaye toujours de dire ah, quand même, je peux peut-être la rattraper. Et généralement, plus on s'acharne, plus c'est moche, plus c'est con, enfin, plus c'est, ou ça devient vulgaire. Enfin, il y a un truc. Donc, on est de plus en plus humilié par sa peinture, de plus en plus furieux. Et on se dit, ah, j'ai déjà fait tout ça. C'est comme d'attendre le bus, là, d'attendre le bus trois quarts d'heure. On se dit quand même, encore attendre cinq minutes de plus. Et donc, on hésite à se dire, non, c'est vraiment une merde, il faut arrêter. Et voilà. Mais quand même, au bout d'un moment, on est obligé de se rendre à l'évidence que ça ne marchera jamais, que ça ne va pas, c'est raté. Donc, il y a deux options. On peut effacer à la térébenthine. Alors, ça fait c'est pas vraiment blanc, ça fait un truc un peu irisé, vague ton quand même. Et moi, j'ai jamais réussi à repeindre là-dessus. Ça rate encore plus la fois d'après. Il y a la solution de repeindre en blanc, de mettre du gesso. Enfin, après avoir effacé, mettre du gesso pour refaire une surface. Mais là non plus, à chaque fois que j'ai essayé de le faire, il y a une sorte de présence fantôme de la peinture ratée qui résiste. Donc non, il faut prendre une nouvelle toile, foutre celle qui est ratée à la poubelle et attendre de nouveau d'être dans le bon état d'esprit. L'essentiel, c'est ça, c'est le bon état d'esprit.
Et comment tu fais? T'as des routines ou en tout cas un moyen de te mettre dans des bonnes prédispositions pour peindre?
Bah, toute ma journée consiste à essayer d'être dans de bonnes dispositions pour peindre. Du moment où je me réveille à la fin de la journée, c'est ça.
Ça ressemble à quoi tes journées alors, dans ce cas?
Bah, si tu veux, j'essaye de me mettre dans un état d'esprit où être suffisamment calme, suffisamment de bonne humeur, suffisamment disponible. Par exemple, le matin, j'aime bien lire le matin. J'essaye le matin de lire des choses qui me mettent dans une bonne disposition pour la journée, du moins pour la matinée. Choses qui m'inspirent, qui me donnent l'impression qu'il existe un monde où les gens sont intelligents, travaillent sur des choses subtiles. C'est vrai, c'est de lire des philosophes ou des écrivains, des gens qui donnent l'impression qu'il n'y a pas que des brutes sur Terre, quoi. Bon, ça existe, on sait que ça existe, mais voilà, d'essayer d'être dans un état d'esprit où on se dit, bon, il y a un monde d'intelligents qui existe, la beauté existe, il y a une quête de la beauté qui est partagée par quand même beaucoup de monde. Voilà, essayer de. Puis après, de bonne humeur, de pas trop se prendre au sérieux non plus, ça non plus, c'est très mauvais. Enfin, bon. D'être léger, quoi. Enfin, d'être léger, de bonne humeur, et puis que les trucs tombent, les trucs tombent bien. C'est ça, faut préserver ça. Enfin.
C'est fragile.
Ben oui, il y a mille raisons que ça s'arrête. D'être en but à des choses qui viennent. Mais donc voilà, c'est essayer d'être dans un état d'esprit de propice, inspiré, de regarder des peintres ou des artistes qui peuvent relancer sur autre chose. Ça peut être d'aller se promener ou de faire un trajet, enfin d'être dans un. Voilà, d'être dans. De préserver un état d'esprit, c'est le plus important, je crois. Sans ça, on peut. Il ne faut pas non plus attendre d'être dans le bon état d'esprit pour faire quelque chose, que sinon, évidemment, on ferait.
Oui, mais il y a aussi cette dimension où c'est en se mettant au travail que l'inspiration vient aussi, non, j'imagine.
J'essaye de faire toujours au moins une chose par jour.
Ou une toile par jour.
Genre, ça m'embête parce qu'aujourd'hui, je n'ai encore rien fait.
Oula, mince. Il faut s'arrêter alors.
Mais j'essaye de faire toujours une
un
peinture,
petit truc, ouais.
Quelque chose, au moins une chose par jour, quoi. C'est important pour être toujours dans un. Ou même si on est, effectivement, même si on ne se sent pas en forme, qu'il y a des trucs qui vont pas, je sais pas. Enfin, essayez quand même de faire une chose parce que c'est vrai que de faire quelque chose, même les plus mauvais jours, quand même, en général, ça sauve la journée. Même si on ne fait pas un truc génial, évidemment. Hein. Mais quand même, au moins une chose, comme de sortir de chez soi, quoi. Enfin, comme quoi qu'il arrive, avant de se dire bon, aller faire un tour dehors, marcher, enfin, c'est pas rester chez moi, les volets fermés, voilà, sortir, quoi.
Ouais, donc, faire un truc, ouais.
Faire quelque chose. Donc voilà, faire au moins une peinture par jour, si c'est possible. Bon, il y a des jours, il y a.
Tu te lèves tôt, tu finis tard.
Ouais, c'est tôt, c'est ouais. Tôt.
Tu vas nager le matin, tu fais du sport, tu déjeunes tous les jours avec quelqu'un.
Bah si je suis pas à Paris, je nage tous les jours, ouais, ça c'est sûr. Paris, ouais, je fais un peu de sport, j'en ai fait souvent, ouais. Ouais. Oui, il faut. Oui, j'essaie d'aller déjeuner avec quelqu'un quand c'est possible aussi. Ça aussi, c'est important. Il y a tout un petit régime comme ça hein, qui est nécessaire pour être dans le bon truc, quoi. C'est idiot, mais ça c'est important.
Bien sûr.
D'écouter de la musique, j'écoute beaucoup de musique. La musique compte beaucoup pour moi, pour justement créer l'atmosphère favorable, quoi. Parce que dans un atelier, on passe des grandes journées seules. Donc, il n'y a pas la distraction de l'extérieur. Donc là, la musique, ça permet de... comme si on se promenait, enfin de changer d'atmosphère, ça calme aussi. Parce qu'il faut de la patience pour faire une peinture, souvent. Enfin, il faut pouvoir rester concentré longtemps, en fait. Et avoir la patience que les choses... de faire les choses d'une manière qui tombe bien, de pas trop se précipiter, de pas brouiller, tout ça. Donc la musique, ça aide beaucoup à ça. De même que la musique, ça peut aussi refiler une énergie quand à un moment on en a besoin. Donc je compte beaucoup sur la musique pour ma journée.
Très bien. C'est quoi les discussions qu'on a avec son galeriste ou son artiste liaison, c'est comme ça qu'ils appellent ça, je crois.
Ben les discussions avec Lucien Terrasse, on parle beaucoup quand on fait des expos ensemble. On parle beaucoup, oui, on réfléchit, on discute d'art, on travaille beaucoup sur la manière dont on installe les peintures les unes par rapport aux autres. C'est très important aussi ça. Donc c'est des choses qui sont difficiles à communiquer. Ça fait partie des... Soit les gens le sentent ou pas. Enfin, mais c'est une étape très importante. Quand on organise les accrochages avec Lucien, on travaille ensemble pendant un ou deux jours. On pose les trucs et voilà. Et on sent toujours que la même manière que si on met cette peinture-là à droite, c'est beaucoup mieux. Ou si on met que cette petite là à tel endroit, là c'est vraiment super. Donc parfois on se marre parce que tellement on s'auto-félicite de petits détails comme ça, sachant que la plupart des gens ne s'en rendraient pas compte, ou en tout cas ne pourraient pas le formuler, mais je suis sûr quand même qu'ils le sentent. Enfin, qu'ils le sentent, ils ne peuvent pas le formuler, mais ça c'est très important ce moment-là. Je pense que c'est comme en musique de mettre telle note après telle autre, ça fait bon. Mais et la manière dont on dispose les peintures, ouais, ça on parle beaucoup de ça, ouais.
Et est-ce que ils sont dans une, est-ce qu'il est dans une démarche de dire les pots de fleurs et tout là, faut peut-être passer à autre chose.
Non, pas du tout. Ça, il y a pas d'indication comme ça. Chacun est lâché dans la nature avec ses questionnements. Ça, c'est à chacun de se débrouiller avec ça. De sentir, de... Voilà, ça, c'est... C'est une liberté totale. Hein.
Quand on est... toi, finalement, t'as été indépendant, entrepreneur. Il y a une grande part de d'inconnu, en fait, en permanence dans ta vie.
Depuis le début.
Ouais, comment t'as surpassé ça? Comment t'as lâché prise? Comment tu... En sachant que t'as des enfants aussi, t'as une famille qu'il faut entretenir, etc. C'est comment est-ce qu'on arrive à... Parce que tu fais un métier, une activité qui demande vachement de sensibilité et de présence, d'être en permanence. Enfin, quand tu es face à ta toile, tu dois être là, quoi. Et c'est vrai que la vie, elle est rude, et que, enfin, pour beaucoup de gens, en tout cas, voilà, et pour tout le monde, en fait, elle est rude. Et donc, les soucis, ils sont là en permanence, etc. C'est comment on arrive à se couper de ça?
Bah, il faut se. Bah, à un moment donné, il faut se concentrer. C'est vrai que quand on fait des. Une époque où je faisais beaucoup de choses pour des magazines où il y avait des deadlines. Donc, une deadline. Quel que soit le problème qu'on ait, on est obligé de la faire, quoi. J'ai jamais repoussé des deadlines, en fait, hein, jamais. Hein. Même si c'était, même si la situation était, c'était compliqué, j'ai toujours réussi à faire ça. Donc oui, à un moment donné, on se mobilise. C'est comme pour n'importe quel métier. À un moment donné, il faut le faire, quoi. Alors évidemment, il faut arriver à trouver l'idée, etc. Mais je sais pas pourquoi ça marche souvent. Mais souvent, il y a rien. La plupart du temps, enfin en tout cas, spécialement quand je devais répondre à des deadlines ou trouver des idées, c'est que il y a rien en fait. On a absolument rien en tête. Et le mystère, c'est que tout à coup, il y a un truc qui arrive, quoi. Enfin, une image possible, ou un dessin possible, une idée qui arrive. Mais il n'y a toujours rien au départ. Et pour les peintures que je fais dans l'atelier, alors bon, si quelqu'un vient poser, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui vient, donc là, ça va être facile. Parce que, après, la peinture sera plus ou moins réussie, mais il y a quelqu'un qui vient proposer, enfin, qui est une présence, donc voilà, je peins de cette personne. Mais les jours où il n'y a pas de modèle, je suis dans mon atelier. Là aussi, il y a rien. Il y a des peintures que j'ai déjà fait. Je me dis, ah bah oui, ça, j'ai déjà peint ce coin de l'atelier, j'ai déjà peint ce truc-là. Tout me paraît sans intérêt, déjà fait, etc. Mais il y a un moment donné dans la journée, peut-être, il y a un tout petit truc, un tout petit switch qui se fait où je réalise que ce livre qui est posé à côté de tel autre ou d'un rouleau de scotch. C'est une peinture possible. Et voilà, c'est un mystère. Il faut avoir l'esprit suffisamment ouvert ou suffisamment sensible pour que ça puisse arriver. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive à partir de rien. Parce que la plupart du temps, il n'y a rien. Enfin, et on ne sait même pas comment c'est arrivé, en fait. Parce qu'il y a une heure, je trouvais ça moche. Je ne voyais pas ce que je pouvais faire. Et puis, tout à coup, je peux faire une peinture. Et il n'y a aucune certitude qu'on pourra le faire demain, après-demain, etc. Enfin, au bout d'un moment, quand même, on sait qu'on va y arriver, mais il n'y a jamais de certitude de rien dans ce domaine. Enfin, oui, c'est. Quand je travaillais pour des magazines, des choses comme ça, j'allais voir tout le temps j'allais tout le temps voir des. Enfin, à un moment, je le faisais moins, mais j'allais tout le temps voir des gens, justement. J'essayais tout le temps d'avancer en fait ou de faire des livres ou si j'avais de faire des livres pour continuer à avancer par exemple. Donc oui, on construit au fur et à mesure le pont sur lequel on avance pour rejoindre l'autre rive.
Il y a quoi sur l'autre rive d'ailleurs?
Alors, on sait pas, mais enfin en tout cas on est au-dessus du vide, il faut continuer à
avancer. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais des choses différemment dans ta carrière?
Je suis pas sûr parce que parfois je me dis j'aurais peut-être dû commencer, enfin j'aurais pu commencer à peindre, à faire poser des gens plus tôt par exemple, parce que ça m'a pris du temps de me décider à le faire. Maintenant je vois pas ce que ça aurait apporté d'avoir fait plus tôt, parce que ce qui compte c'est ce qu'on va faire demain. De toute façon, ce qui est fait, ce qui est déjà fait, ça sert à rien. Enfin je veux dire, donc ce qui compte c'est ce qu'on va faire demain. C'est la peinture que je vais faire demain. Enfin voilà, c'est ça qui compte. Donc non, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire autrement. Tout ce qui s'est fait finalement avait une raison de travailler dans le monde commercial. Ça permet de rencontrer énormément de gens variés, de visiter toutes sortes de milieux, d'aller dans des endroits où j'aurais jamais pu aller autrement si j'avais été si j'avais pas été dans la situation de faire ça, enfin de ça m'a permis de voyager dans plein d'endroits. Enfin, donc même des choses commerciales qui, à certains moments, paraissaient moins intéressantes, ça débouchait sur des trucs qui étaient intéressants, sur une expérience de des gens, des endroits, des voyages. Me rendre compte comment ça se passait chez les développeurs immobiliers de New York ou de Bangkok ou les gens qui font des livres sur la mode, par exemple, comment travaillent des artisans d'art, enfin des gens à chaque fois il y a des choses comme ça ou d'être envoyé faire un reportage dessiné pour le magazine Departures, par exemple, aux États-Unis, où j'étais allé en Asie du Sud-Est, tout ça. J'ai fait des voyages qui n'auraient jamais eu l'occasion de faire. Et en plus, je n'aime pas voyager si je ne travaille pas. Enfin, ça ne m'intéresse pas de faire du... Ça me fait horreur de faire du tourisme. Donc j'aime bien voyager si j'ai quand même une raison de... Une raison de travailler quelque part, rencontrer des gens, être dans une relation de travail avec les gens, en tout cas de travail ou d'intérêt mutuel, pas simplement visiter des lieux ou aller à la plage, ça, je m'intéresse pas tellement.
Tu vas sortir ou tu sors dans ce mois-ci cette autobiographie, Peindre devant soi. Pourquoi t'as eu cette envie de faire ça maintenant, à ce moment-là?
À un moment donné, j'ai pensé que c'était bien des... C'était pas mal d'expliquer un peu pourquoi je faisais ce que je fais aujourd'hui aussi. Mais c'est une autobiographie, mais uniquement sous l'angle du dessin et de la peinture. C'est-à-dire que c'est pratiquer le dessin et la peinture comme fil conducteur de l'enfance à aujourd'hui. Et comment j'ai différentes époques. Et c'était aussi, de même que ça m'intéresse aujourd'hui de peindre ce que je vois, je me suis dit, je peux écrire simplement sur moi, sur la réalité, sur ce que j'ai vu, sans faire de fiction. Parce que j'ai publié 4 romans avant, qui étaient de la fiction. Peut-être dans le même mouvement, je me suis dit, je vais parler de l'enfance ou des gens que j'ai croisés dans le travail, enfin en allant aux États-Unis, ou en Angleterre, au Japon, raconter ces voyages. C'est une manière de raconter aussi, je pensais que ça pouvait aussi être intéressant pour des gens qui... puisque maintenant, c'est devenu très très courant de faire des études d'art. Enfin, c'est devenu une chose très courante, alors que pas toujours été le cas. Je dis que ça pouvait être amusant, aussi intéressant pour les gens d'avoir l'exemple. C'est pas le meilleur exemple, mais un exemple de comment on fait une sa vie. Enfin,
autour de l'art, ouais.
Autour de la peinture, du dessin, de la représentation, de... C'est une possibilité, c'est pas du tout pour dire j'ai bien fait de faire comme ci, comme ça. C'est une possibilité, quoi. C'est une proposition. C'est comme de peindre un paysage, c'est une proposition. C'est pas tous les paysages, c'est juste ce paysage à ce moment-là. Là, c'est un peu ça. Et c'est pas non plus. C'est pas non plus une somme de trucs. Pour se vanter d'un truc, c'est un processus, quoi. Voilà, c'est pour parler d'un processus qui reste ouvert.
Comment tu t'y es pris?
Comment? Oui.
Comment tu t'y es pris pour écrire cette biographie?
Bon, j'ai commencé puis ça s'est déroulé. Et puis je voulais expliquer aussi, enfin expliquer. Si on dit expliquer, c'est ennuyeux, mais je voulais essayer d'évoquer, de montrer comme pourquoi je fais les peintures que je fais aujourd'hui? Comment, à un moment donné, je me mets à faire ça? Qu'est-ce que j'ai en tête quand je peins des paysages à New York? Enfin, voilà, c'est ça que je voulais montrer. Mais comme une chose qu'on laisse ouverte, quoi. C'est comme une étape dans un voyage, quoi. On a fait ça. Ce soir, on est là, et puis on continue. C'est pas on est rentré de vacances et on regarde des diapos, enfin on regarde le slideshow, ou d'ailleurs plus personne fait ça, on regarde sur Instagram, mais non, c'est plus comme une sorte d'étape, et pour laisser ouvert, montrer un processus mais qui reste ouvert.
Il y a une part de une volonté de laisser une legacy un petit peu quand même en faisant ça. C'est une sorte d'héritage, ou en tout cas une histoire, un témoignage. Et qu'est-ce que tu as envie de laisser, toi, en legacy de qu'est-ce que tu as envie que les gens retiennent de ta peinture?
Ça, vraiment, je pense pas du tout en termes de laisser quelque chose. Je pense que les trucs sont très 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 temporaire, très très fragile. Je pense qu'on non, c'est on montre des choses au fur et à mesure, mais laisser des choses, non, je pense pas. Je pense si, par exemple, là c'est un récit où peut-être que c'est amusant de. Je me dis, ça peut être amusant de raconter comment c'était de travailler dans la presse ou certaines époques de New York ou certaines époques de Los Angeles, mais parce que je pense que les gens peuvent s'y retrouver. Moi, ça m'amuserait éventuellement de lire ça, de me dire ah, c'était comme ça. Ou... Et puis je pense qu'on peut aussi dans l'histoire, c'est que dans l'histoire du personnel de quelqu'un, on peut se retrouver. On peut retrouver les angoisses qu'on a eues, on peut retrouver les sortes d'enthousiasme, on peut retrouver la solitude des voyages, on peut retrouver ça. C'est ça aussi que j'essaie de communiquer. Si quelqu'un prend l'avion pour aller à Tokyo et puis se dit oui, enfin, que ça lui évoque des voyages qu'il a fait, des situations comparables, et que la manière dont c'est décrit l'amuse, parce que finalement c'est précis et que dans la précision il peut se retrouver, c'est ça qui m'intéresse. C'est la même chose que quand je fais une peinture et qu'on peut se retrouver dedans, enfin qu'on peut.
Qu'est-ce que tu dirais à Jean-Philippe, 17-18 ans, si tu le recroisais aujourd'hui?
Ben, je crois que il n'y aurait aucun conseil à lui donner. Ça ne marche pas de donner des conseils, ça ne sert à rien. Les gens... Non mais... Ça ne sert à rien. C'est les gens... aucun conseil n'est utile, sauf si vraiment il y a un truc très précis ou... je ne sais pas, pour réparer une bagnole ou quelque chose, mais sinon... Non, il faut faire les trucs soi-même. Et malheureusement, il y a pas de voie rapide, quoi. Je pense qu'on est obligé de. Il n'y a pas d'autre solution que de. Si on a 17-18 ans, que de chercher, de découvrir des trucs, de rencontrer des gens, de négocier entre le fait qu'on a peur de faire ça, et puis avoir le courage de le faire, ou l'audace, ou. Je sais pas, on n'a pas d'autre moyen que de faire le truc au fur et à mesure. C'est une improvisation permanente. Et on est disponible pour l'improvisation au bon moment ou pas. Et on ne peut pas faire mieux. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est d'essayer de regarder au maximum, de lire au maximum, enfin d'essayer de comprendre, d'écouter de la musique, d'essayer de ne pas être trop dogmatique si on peut, mais quand on est en général, ça rassure d'être très dogmatique, en tout cas au début. Et donc voilà, c'est d'être curieux, enfin, c'est des tartes à la crème, quoi, d'être curieux, mais vraiment être idiot pour ne pas être curieux, quoi. Donc c'est pas un conseil qu'on peut donner avant de vouloir passer pour un imbécile, quoi, ou un emmerdeur, enfin,
ouais.
C'est vrai.
Ouais.
Donc, je me donnerai aucun conseil, et j'essaye de pas en donner aux gens, quoi, même si tout le monde voudrait vous donner des conseils, mais normalement, ça sert à rien. Ou tant mieux, heureusement, ça sert à rien.
Bien, parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Jean-Philippe, c'était trop cool.
Merci.
Dernière question pour transmettre le relais, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Ah, je sais pas, écoute, il y a tellement de gens, moi, à chaque fois que je vois des artistes parler, ça m'intéresse toujours, hein, comme ça, j'ai pas de nom auquel je pense. Un artiste, un peintre, Alex Katz, oui, mais... Les gens ont déjà entendu beaucoup de trucs sur lui. Non, je sais pas, toi, de trouver quelqu'un qui te motive.
Oui, bien sûr, t'as raison. Merci infiniment, Jean-Philippe. À bientôt.
Merci.
Salut.
Je m'appelle Adrien Garcia et vous venez d'écouter The Bold Way. The Bold Way, c'est aussi une newsletter dans laquelle je vous partage un email par semaine rempli de contenu exclusif, d'idées innovantes et de ressources précieuses pour vous aider à surmonter vos défis et tracer votre propre chemin. Inscrivez-vous dans les notes de cet épisode ou sur theboldway.fr. Last but not least, la meilleure manière de m'aider est de partager ce podcast autour de vous. Si cet épisode vous a aidé ou touché, partagez-le à vos proches et à vos amis. Merci pour votre confiance et à bientôt pour un nouvel épisode.